RRB pour être au cœur de l'actualité.
17h45 sur RRB, Info Weekend, Mickaël Juneski.
À la une, le ministre des Outre-mer de nouveau sur le terrain ce dimanche. Manuel Valls était à la rencontre des acteurs économiques pour réaffirmer le soutien total de l'État à plusieurs filières calédoniennes. Le pape François dans un état critique. Le souverain pontife est toujours hospitalisé à Rome. Il souffre de complications respiratoires. L'actualité nationale, Bruno Retailleau pointe du doigt la responsabilité du régime algérien dans l'attaque terroriste qui a fait un mort à Mulhouse. L'assaillant était sous obligation de quitter le territoire français. Un stand calédonien au salon de l'agriculture à Paris. 60 kg de crevettes, 100 kg de thon et 120 kg de viande bovine sont proposés aux visiteurs dans la plus grande ferme du monde. Belle ambiance au foyer de l'amicale vietnamienne. Les festivités du Tet se poursuivaient avec la journée des anciens ce dimanche à Nouméa. Le sport du rugby. Le 15 de France a rendez-vous face à l'Italie la nuit prochaine dans le tournoi Destination. Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur pour garder une chance de gagner la compétition. Et en Calédonie, le premier trail de l'année, le Blue Bat Trail, a rassemblé plus de 700 coureurs au départ de Dimbéa. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, nous avons appris qu'un accident mortel est survenu à Lifou ce dimanche. Vers 15h, un véhicule a fait une sortie de route pour une raison encore indéterminée et a terminé sa course contre un poteau électrique. Le conducteur, seul à bord, est décédé des suites de ses blessures. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame qui porte à 6 le nombre de victimes. Victime d'un accident de la circulation en Calédonie depuis le début de l'année. La deuxième journée de la visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie fait bien évidemment ce soir encore la une de l'actualité. Une journée que le ministre des Outre-mer achèvera en dînant au Centre culturel Chibaou avec les membres du comité Parole, Mémoire, Vérité et Réconciliation. Une deuxième journée avec encore un programme chargé que le ministre a débuté tôt ce matin dans la commune du Mont-d'Or, Lionel Sabot.
En effet, Manuel Valls s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Saint-Michel, brigade de gendarmerie qui a été particulièrement sollicitée lors des émeutes insurrectionnelles du mois de mai dernier. Une brigade qui a même dû faire face à plusieurs attaques d'émeutiers. Lors d'une courte cérémonie dans l'intimité de la cour de cette brigade qui jouxte le lycée du Mont-d'Or, le ministre a décoré 5 gendarmes et a salué une nouvelle fois l'engagement des forces de l'ordre lors des émeutes. Écoutez Manuel Valls qui s'est adressé aux gendarmes mais aussi à leur famille qui était présente ce matin dans la cour de la brigade de gendarmerie.
L'ensemble des gendarmes qui interviennent, qui habitent en Nouvelle-Calédonie depuis bien longtemps, et plus particulièrement pour faire face aux émeutes violentes, évidemment inacceptables, qui ont commencé il y a presque un an, le 13 mai 2024. Je voudrais vous dire mon émotion et combien je suis honoré de passer ce moment avec vous. Sachez que c'est grâce à vous, grâce à votre engagement, que nous pouvons aujourd'hui entamer des discussions qui, j'espère, pourront aboutir à un accord et à la paix civile, parce que ce magnifique territoire que la Nouvelle-Calédonie le mérite. Votre présence et votre engagement est la démonstration que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se bâtit avec la France.
Manuel Valls ce matin, la brigade de gendarmerie de Saint-Michel au Mont-d'Or. Rappelons que le ministre des Outre-mer s'était incliné hier devant la stèle, rendant hommage au gendarme Nicolas Molinari à la brigade de gendarmerie de Ploum.
Après cette cérémonie, le ministre des Outre-mer a ouvert une séquence plus centrée sur l'économie en se rendant sur le site du centre commercial de Kenouin à Dimbéa, un centre commercial totalement pillé et détruit lors des émeutes lyonnaises.
Oui, c'est un vrai spectacle de désolation qu'a découvert Manuel Valls ce matin à Dimbéa. Le ministre a été accueilli sur place par le maire de la commune, Yoann Le Courrieux, mais aussi par Mickaël Dib, le directeur général du centre commercial, la gérante d'un salon de coiffure qui était installé depuis plus de 20 ans dans la galerie marchande. Également présent ce matin, le président de la CCI, David Guyenne, les représentants du MEDEF-NC, dont Laurent Vircondelet, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, le sénateur Georges Naturel, Manuel Valls, qui a tout d'abord pris le temps d'écouter en arrivant sur le site de Kenouin.
Tout le monde attend de savoir Kenouin s'il repart et à quel moment. Et à partir de là, les autres vont suivre. Parce que sinon, il faut vraiment avoir un pouvoir attractif de plusieurs...
Bien sûr.
La reconstruction va se faire. Oui. Pas mal d'aléas et beaucoup de temps.
vous avez ici, monsieur le ministre, un concentré de toutes les problématiques actuelles et les défis futurs.
Le salon de coiffure est estimé à 52 millions quand même, hein. C'est peut-être pas grand-chose pour que vous voulez, mais pour moi c'est beaucoup. Donc ça veut dire que si j'ai pas les assurances, je peux pas reconstruire. J'ai mis 25 ans pour avoir une équipe qui tenait la route. J'ai été obligée de licencier mon personnel parce que je peux pas les maintenir pendant un an. Si je repars pas d'ici le mois de mai, je perds ma paire d'exploitation. Alors moi j'aimerais qu'on me dise comment je m'en sors, parce que depuis mai j'ai zéro revenu et je me retrouve coincée entre les assurances. Les banques ne vont pas me prêter à l'âge que j'ai.
On a un problème général sur la Nouvelle-Calédonie, ou c'est sur le même type de problème à Mayotte, évidemment, dans un autre contexte. Donc là, il faut qu'on les fasse bouger, parce que vous retrouvez là, notamment les petits commerces, dans une situation que vous venez de décrire parfaitement, qui est impossible.
Il y a un autre sujet qui n'est pas anodin, auquel on ne pense jamais, c'est que la reconstruction devra probablement obliger les administrations et les banques à devenir un peu moins rigide.
Oui. Il faut l'intelligence collective. Oui. Il faut du
sang. Et après avoir déambulé dans les décombres de ce qu'il reste de la galerie commerciale, le ministre des Outre-mer a pris la parole devant la presse, l'occasion de rappeler que l'État sera aux côtés du monde économique.
L'État est aux côtés, en soutien du monde économique. C'était le sens du forum économique que nous avions tenu il y a quelques semaines à Bercy, et avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec la province sud, avec évidemment les maires, notamment le maire de Numbea, nous allons poursuivre avec les acteurs économiques, MEDEF, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers, les investisseurs eux-mêmes d'abord. L'État sera là pour la reconstruction du pays et de l'activité économique. Pour que cette activité économique puisse se poursuivre, il faut évidemment une perspective politique, il faut assurer la sécurité. Il faut que tous les acteurs jouent leur jeu. Et je pense notamment aux assureurs et aux banques. Chacun doit être placé devant ses responsabilités. L'État est présent en termes d'engagement financier en Nouvelle-Calédonie depuis toujours et l'est depuis l'été dernier. Et je confirmerai les engagements financiers de l'État. Et pour venir aussi, non seulement en soutien aux entreprises, mais à ceux qui sont dans le chômage. Ici, ce sont des dizaines d'emplois qui ont été détruits.
Manuel Valls, qui lors de cette visite a salué les entrepreneurs qui envisagent ou qui ont déjà décidé de reconstruire, de redémarrer leur activité. L'État sera donc à leur côté. Manuel Valls d'appeler tous les acteurs à jouer le jeu.
Je suis très déterminé à ce que chacun assume pleinement ses responsabilités. Indemnisation, réassurance, accompagnement. Et puis, s'il faut modifier des outils de l'État, je pense notamment à tout ce qui est la défiscalisation pour aller plus loin, nous le ferons. Moi, je suis très attaché à ce que l'État et donc le gouvernement démontrent encore une fois que la France est là pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.
Et à l'issue de cette visite sur le site du centre commercial Kenuin, Manuel Valls a mis le cap sur la brousse afin de poursuivre cette première séquence tournée vers l'économie. Premier rendez-vous sur le thème de l'agriculture, sur la propriété de Ghislain Santacross à Moindou. Le ministre des Outre-mer y a été accueilli par le maire de la commune, Jo Perronnet, qui a notamment évoqué avec le ministre la politique de l'eau.
Nos agriculteurs et nos éleveurs, il manque d'eau et tous les fins d'année, on a un déficit en eau. Et on lui a proposé de faire des grosses retenues collinaires, un peu comme le projet qu'il a, l'UNARCAL. C'est que faire des retenues collinaires et puis aider les agriculteurs, les éleveurs. Et ça évite de pomper dans la rivière. Et la rivière, c'est pour mes administrés. Des fois, je ne peux pas leur donner de l'eau parce que c'est dommage, quoi, voilà. Et je pense que le ministre était à l'écoute de ça, quoi.
Jo Perronnet, qui était accompagné par ses collègues maires de La Foix, Florence Roland, et de Boulou-Paris, Pascal Vittori. Lors de cette première séquence de l'après-midi, Manuel Valls a longuement pu échanger avec plusieurs agriculteurs, et parmi eux, Franck-Souris Lavergne, agriculteur à La Foix et élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Le secteur de l'agriculture, contrairement à toute une partie de l'économie, il n'a pas été directement touché par les émeutes. Par contre, on voit aujourd'hui une baisse de la consommation, non seulement par les départs directs qui sont faits, mais en plus par la baisse du pouvoir d'achat de nombreux Calédoniens. Et il faut savoir que nous, on travaille avec du vivant et on n'a pas de bouton pause. Et donc, demander aux exploitations agricoles de moins produire, c'est les mettre en danger de survie. Et donc là, nous, les enjeux aujourd'hui, c'est de trouver des pistes de débouchés qui permettent de pallier à cette baisse de consommation pour maintenir les outils et puis participer à la relance une agriculture et une pêche plus forte. Il nous a dit qu'on pouvait travailler avec l'État pour voir comment l'État pourrait soutenir nos secteurs sur ces sujets-là. Mais il nous a surtout rappelé le discours qui avait été celui du président lors de sa visite, qui est que l'agriculture et la pêche font partie des secteurs essentiels à la diversification de l'économie calédonienne. Ça, c'est important.
Le ministre des Outre-mer s'est ensuite rendu à Bouloupari avec une séquence dont la thématique était la transition énergétique. Manuel Valls s'est rendu sur le site de la centrale photovoltaïque Hélio-Bouloupari, l'une des plus grandes centrales solaires de France et même d'Europe, un lieu emblématique du savoir-faire calédonien en termes de transition écologique. Amandine Mignana est responsable de Total Énergie Renouvelable Pacifique.
Sur cet espace, on a en même temps donc des grandes centrales solaires, les plus grandes centrales du territoire. On a aussi du stockage avec notre centrale solaire de Bouloupari 2. Et puis, on est positionné juste à côté du poste source d'Enercal, qui est un élément clé du réseau. Un poste source, c'est une grande porte d'entrée au réseau. Et donc, c'est un endroit pour nous où on peut injecter de l'énergie sur le réseau assez facilement. Et sur cette plaine aussi, à proximité du poste source, sera construite une grande unité de stockage batterie. Donc, à cet endroit particulièrement, on est vraiment sur une zone qui est assez emblématique de la transition énergétique.
Le ministre des Outre-mer a ensuite procédé toujours sur le secteur de Bouraquet avec Alcide Pongal, président du gouvernement, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique, le député Nicolas Metzdorf et du maire de Bouloupari, Pascal Vittori et des coutumiers, à l'inauguration de la ferme Accuo, une ferme photovoltaïque et de batterie de stockage d'énergie. Écoutez Pascal Vittori.
La ferme Accuo a l'avantage d'être une ferme qui a été montée avec des GDPL et donc en relation avec les coutumiers de Bouloupari. Et puis, Accuo, surtout, va monter là une ferme de batterie qui va permettre de stocker l'énergie des fermes éoliennes. Et on a pu également présenter au ministre le projet d'Enercal, de STEP, hein, qui est une sorte de grand bassin de rétention d'eau qui va permettre de stocker l'eau et de la turbiner pour utiliser l'énergie solaire. Et tout ça, ça va servir pour nos usines de nickel, pas seulement pour Bouloupari, mais pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Des propos recueillis à Moindou et Bouloupari par Léo Fichou, le ministre des Outre-mer, s'est ensuite rendu à la ferme aquacole Aigues-Marines, toujours à Bouraquet, qui produit bien évidemment les fameuses crevettes de Bouloupari.
Le ministre des Outre-mer est donc en Calédonie jusqu'à vendredi. Ce déplacement sera bien évidemment le rendez-vous principal de la semaine qui va commencer. Voyons quels seront les temps forts de la suite de la visite de Manuel Valls en Calédonie, Lionel.
Demain matin, Manuel Valls débutera sa troisième journée en Nouvelle-Calédonie dans les studios de Radio Rythme Bleu. Le ministre des Outre-mer sera en effet notre invité du matin à 7h30. Il répondra aux questions d'Elisabeth Noir. Manuel Valls visitera ensuite l'école Michel Amiot à Magenta. Le ministre des Outre-mer poursuivra sa matinée avec une série d'échanges et d'entretiens. Il rencontrera successivement Alcide Pongal, le président du gouvernement, Velma Falaeo, la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Sonia Baques, la présidente de la province sud, et Sonia Lagarde, le maire de Nouméa. En début d'après-midi, Manuel Valls se rendra au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour une plénière de méthode. En fin de journée, le ministre échangera avec les représentants du monde économique. Ce sera au Haut-Commissariat. Mardi, Manuel Valls passera une partie de la journée en province nord. Il visitera le lycée Michel Rocard à Pointe-Bout, la mine Copéto à Poya et le régiment du service militaire adapté, le RSMA à Koumac. Lors de cette journée, Manuel Valls rendra également hommage à Jean-Marie Tchibaou à Tiendanit et à Jacques Lafleur au cimetière du 4e kilomètre avant de dîner avec des jeunes Calédoniens. Mercredi et jeudi, temps fort de cette visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie, deux journées consacrées aux négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, négociations qui se dérouleront au Congrès. Et puis vendredi, pour le dernier jour de sa visite, Manuel Valls rencontrera Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, puis il participera à une cérémonie à l'école de la police nationale à Normandie. Le ministre des Outre-mer aura enfin un échange avec les représentants du monde du nickel. Manuel Valls quittera la Nouvelle-Calédonie vendredi en fin de soirée.
Un dernier rendez-vous sur l'antenne d'RRB à la fin de ce journal. Ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Alcide Pongal, le président du gouvernement, au lendemain de sa déclaration de politique générale devant le Congrès, qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir. Vous pouvez également la réécouter ou la revoir en libre accès sur notre site internet www.rrb.nc. Il est 18h, une page de publicité avant de voir le reste de l'actualité. Quelles sont les nouvelles de l'état de santé du pape? On voit ça après la pub.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite journal avec vous, Michael Gineski.
L'état de santé du pape, toujours inquiétant. Âgé de 88 ans, le Saint-Père est hospitalisé depuis le 14 février dernier. Le pape François est dans un état critique selon le Saint-Siège. Son pronostic vital est réservé, précise encore le Vatican. Le point avec Antonino Gallofaro, le correspondant d'Europe 1 à Rome.
Il n'est pas hors de danger, comme l'a rappelé hier soir le Vatican. Vendredi, il avait montré quelques signes d'amélioration, mais hier matin, il a subi une crise respiratoire asthmatique prolongée. Les médecins ont dû l'aider à respirer avec de l'oxygène à haut débit. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Siège précise aussi qu'il souffre d'anémie. Les analyses montrent un manque de plaquettes dans le sang et des transfusions sanguines ont donc été nécessaires. Pour l'instant, les médecins préfèrent ne donner aucun diagnostic. Même si le Vatican reconnaît que le pape a souffert plus que les jours précédents, eh bien, il tente de rester optimiste. François est resté éveillé hier. Il a même passé la journée dans un fauteuil. Et aujourd'hui, pas d'Angélus depuis les appartements pontificaux. Pour la deuxième fois, le pape manque l'un des rendez-vous hebdomadaires les plus attendus par les fidèles, place Saint-Pierre. Seul un texte de méditation sera publié.
Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. C'est la quatrième hospitalisation du pape depuis 2021. Il avait été pris en charge à l'hôpital de Rome pour des problèmes respiratoires. En bref, au Moyen-Orient, après la libération de 6 nouveaux otages israéliens, Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu, prévient le Hamas. Il assure que les libérations de Palestiniens seraient reportées tant que le mouvement terroriste ne mettra pas fin aux cérémonies humiliantes pour les otages libérés. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas organise des mises en scène à Gaza en exhibant les captifs. La libération de 600 nouveaux prisonniers palestiniens a été retardée. À l'international encore, Emmanuel Macron est attendu à Washington demain. Le président français doit s'entretenir avec Donald Trump, le président américain, alors que ce 24 février marquera le troisième anniversaire du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'actualité nationale, une attaque terroriste survenue à Mulhouse. Un homme muni d'un couteau s'en est pris à des passants, faisant un mort. La victime est un riverain, un homme de 69 ans d'origine portugaise, qui aurait tenté de s'interposer. Trois policiers municipaux ont également été blessés avant que l'assaillant ne puisse être interpellé. L'individu a crié à la Wakbar avant son passage à l'acte. Il s'agit d'un Algérien de 37 ans qui était connu des services de police et qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mais l'Algérie avait refusé à 10 reprises qu'il ne revienne sur son sol. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a directement mis en cause le régime algérien dans ce nouveau cas. Le régime d'Alger est pointé du doigt pour sa non-coopération afin de rapatrier l'individu sur son sol.
La France a tendu la main. Quelles que soient les plaies parfois vives de l'histoire, aucun pays, quelle que soit l'histoire qui peut nous séparer, n'a un droit de tirage pour humilier la France. Je suis partisan, puisque la méthode douce a été utilisée avec l'Algérie, de poser un rapport de force. Le droit international, les relations entre les pays, les nations, mais là, notamment avec le régime algérien, c'est la réciprocité. Donc moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français.
Bruno Retailleau qui souhaite également un changement de législation. Je cite « Quand la règle de droit ne protège pas les Français, alors il faut changer la règle ». Selon Bruno Retailleau, des individus dangereux et sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, doivent être maintenus à l'isolement. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique, est en cours. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête.
RRB 18h4.
4.
À Paris, une inauguration dans le calme pour Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture la nuit dernière. Le président de la République a échangé notamment avec les représentants des principaux syndicats agricoles. Il a appelé au calme, au dialogue respectueux. Le chef de l'État est resté près de 12 heures sans débordement à l'ouverture de ce 61e Salon de l'agriculture. De nombreuses personnalités politiques sont encore attendues sur place tout au long de la semaine. Ce soir, c'est Jordan Bardella, le président du RN, qui est attendu. Un salon de l'agriculture où la Nouvelle-Calédonie est représentée avec la Chambre de l'agriculture et de la pêche qui a envoyé des produits à Paris. Le stand se trouve dans l'espace des Outre-mer, dans un village de 400 mètres carrés dédié aux trois territoires français du Pacifique, aux côtés de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française. La délégation calédonienne propose aux visiteurs 60 kg de crevettes, 100 kg de thon, 120 kg de viande bovine, sans oublier un stock important de produits présentés par la province sud. Pour le vice-président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, Rudy De Villers, c'était important d'être présent à ce salon 2025.
Aujourd'hui, on a, nous, en tant que producteurs, qu'on parle en végétal ou en animal, on fait face à une baisse de la consommation. Et cette baisse de la consommation, il faut qu'on trouve des solutions pour derrière que tous ces producteurs puissent continuer d'écouler leurs produits. Donc aujourd'hui, il était important d'être là au salon pour valoriser nos produits. Aujourd'hui, on exporte déjà de la crevette, du thon de qualité. Et donc, on a une filière apicole où on produit du miel en grosse quantité et qui pourrait être ouvert sur le marché international. Et pourquoi pas au niveau de la viande, parce qu'il faut le rappeler, on fait du produit de qualité. On a des élevages qui sont nourris pour la quasi-totalité à l'herbe. Et aujourd'hui, ça se recherche dans le monde.
Rudy De Villers, le vice-président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. 600 000 visiteurs sont attendus pendant 9 jours dans la plus grande ferme du monde.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Un retour à l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Au chapitre des faits divers, un caillassage qui a fait 2 blessés hier soir au niveau du pont de la Tontouta. 2 personnes qui se trouvaient dans un véhicule circulant aux environs de 20h et qui ont reçu le projectile. Elles ont dû recevoir des points de suture. Les auteurs de ces jets de pierre sont activement recherchés. Et puis cet après-midi, entre Canala et Kouaoua, la RPN5 a dû être fermée plusieurs heures. En cause, un éboulement vers 15h qui a totalement bloqué la chaussée. Un engin de déblayage est intervenu sur place pour réouvrir la route en fin d'après-midi. À Nouméa, la journée des anciens se déroulait ce dimanche au foyer de l'amicale vietnamienne. Un rendez-vous dans la continuité des festivités du nouvel an sino-vietnamien qui s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse. Écoutez.
C'est toujours un plaisir de venir à l'amicale vietnamienne. Et c'est toujours bien de pouvoir voir que la diversité des cultures. Là, on a le Viet Bo Dao, la danse dragon, la danse vietnamienne. Tout le monde est là. Franchement, que tout le monde puisse se regrouper, c'est quelque chose quand même d'incroyable en cette période un peu difficile pour la Calédonie.
C'est extraordinaire. C'est l'occasion de partager des choses ensemble et voilà.
C'est notre tradition, nous faisons toujours maintenir jusqu'à plusieurs générations en Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes les descendants de Tiendang.
Je pense que ça a été au départ pour nos vieux, les premiers Vietnamiens qui sont arrivés, les Tiendang. Donc par la suite, c'est pour nous. C'est une belle journée de pouvoir revoir les amis qu'on ne s'est pas vus depuis un an par exemple. C'est super.
Patrick Guillon, président de l'amicale vietnamienne de Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, un beau succès pour cette journée organisée en honneur des anciens.
Oui, tout à fait. Notre journée aujourd'hui est traditionnelle et pour clôturer nos célébrations du Tet. Le dernier dimanche de février, nous le réservons à tous nos aînés. Chaque année, nous espérons qu'ils viennent nombreux et cette année, ils ont répondu à l'appel et c'est une grande joie pour nous. Et ça fait partie de l'ouverture de la mission de l'amicale vietnamienne qui est de partager notre culture. Aujourd'hui, je dirais, c'est même plus la nôtre. Nous sommes une communauté calédonienne, bien sûr d'origine vietnamienne, métissée. C'est la culture du pays.
La salle de l'amicale vietnamienne était comble pour cette journée des aînés dans le cadre des festivités du Tet. En bref, une information pratique pour les élèves scolarisés au collège Laura Boula de Lifou. Le service de cantine reprendra son fonctionnement demain normalement. Les problèmes techniques dans les cuisines de l'établissement ayant été résolus.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons
ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Un souvenir de rentrée, le petit plus sur RRB pour accompagner cette rentrée scolaire. Un chef d'établissement nous raconte ses souvenirs de rentrée et nous parle de l'évolution de son métier. Aujourd'hui, on écoute le témoignage d'André Rau, proviseur du lycée William Aoudja à Lifour.
Pour moi, la rentrée, c'est le souvenir des alignements dans la cour de récréation lorsque le principal, le proviseur ou le directeur de l'établissement nous appelait. Voilà, au micro. Alors on était en groupe jusque-là, c'était les vacances, et puis tout d'un coup, on entend son nom, tout le monde l'entend, et on doit se diriger vers un groupe déjà un peu constitué à côté du professeur principal, et c'est un peu comme une angoisse, il va falloir se déplacer devant tout le monde, ses regards, cette inquiétude, on connaît personne, et ça c'était un peu inquiétant. Mais voilà mon souvenir le plus marquant de la rentrée scolaire.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement ?
Alors, sans doute pas au niveau de la pédagogie, même si on essaie de plus en plus de permettre aux élèves d'avoir accès au numérique. Il y a du traditionnel dans l'enseignement. Dans l'acte de transmettre, il y a quelque chose qui est hérité de l'histoire. Il y a toujours un maître dans la classe, un chef, mais quelqu'un qui sait. Mais de plus en plus, on essaie d'aller vers une bonne utilisation des outils numériques et de compléter d'ailleurs le nombre d'ordinateurs et d'accès au numérique par les élèves. On essaie vraiment de forcer sur ce terrain-là. Peut-être quelque chose a changé. Comme la société s'interroge, la société mélanésienne tout particulièrement, son rapport à l'altérité, son rapport au monde, dans l'acte d'enseigner, un professeur, un éducateur qui est conscient de ce qu'il fait, est peut-être attentif et vigilant à peser les mots et parfois mettre en débat, lorsque c'est nécessaire, surtout avec des lycéens, cette question-là aussi. Donc sans doute que la relation à l'élève, compte tenu du contexte politique, social, économique, change. Immanquablement, la société a un retentissement dans la classe. Votre question m'amène à réfléchir à ce que pourrait être une rentrée un peu améliorée, parce que je devrais tirer expérience de ce que j'ai vécu et faire en sorte que les élèves soient moins stressés, peut-être. Alors, mais c'est encore comme avant, c'est une forme de pérennité dans l'histoire, hein, de cette manière de faire, mais comment faire autrement, hein.
André Rau, proviseur du lycée William Aoudja à Lifou, au micro de Kininda Bouako.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
18h passées de 12 minutes, une dernière pause publicitaire avant de voir tout le sport.
Chez Simac Quincaillerie, à partir du 1er février, c'est la rentrée des prix. La perceuse visseuse Makita 450 watts Mandrin Auto est à 7900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Coné, lotissement Cataviti. Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo.
Un numéro 28 94 20.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
À la une du sport du rugby, la troisième journée du tournoi destination. Le 15 de France affronte l'Italie la nuit prochaine dans une compétition très serrée. Et après la défaite en Angleterre, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, estime qu'il n'y a pas plus de pression avant de jouer face aux Italiens.
Dans tous les cas, au vu de nos ambitions, on a toujours la pression du résultat parce qu'on veut gagner tous les matchs de toute façon. Même si on avait gagné en Angleterre, on aurait aussi la pression de gagner là. Donc ça, je suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que cette défaite nous aidera à nous remotiver et à transformer la mauvaise énergie qu'on avait à la fin du match en motivation pour que ça nous pousse de même.
Un match à suivre à partir de 2h du matin pour nous. Aujourd'hui, l'Irlande s'est imposée au Pays de Galles 27-18 et reste donc invaincue dans le tournoi. Et l'Angleterre a battu de justesse l'Écosse sur le score de 16-15.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Du football également avec la 23e journée de Ligue 1. À suivre la nuit prochaine, le déplacement de Lens sur le terrain de Nantes, alors que les Canaries sont toujours en difficulté à la 15e place du classement. Et après la lourde défaite subie par les joueurs d'Antoine Comboiré à Monaco, 7-1, Nantes-Lens à suivre à partir d'une heure du matin. À 3h15, Le Havre accueillera Toulouse, Strasbourg recevra Brest et Nice sera opposé à Montpellier. En match de clôture, Lyon recevra le Paris Saint-Germain à partir de 6h45.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
L'actu sport en Calédonie, le premier rendez-vous de l'année pour les trailers. Le Blue Bat Trail était organisé aujourd'hui par Pro Events en partenariat avec RRB au départ du Yala Ranch. Plus de 700 coureurs et 3 parcours proposés. Une édition réussie pour Julie Prunet, l'une des responsables de Pro Events.
Nous sommes satisfaits de cette super édition avec ambiance. Nous avons le premier Ludovic Lanceleur qui est arrivé avec un temps de 1h30. Pour les premières féminines sur le 15 km, c'est Angèle Claire. De l'ambiance, un petit peu de pluie nous rafraîchit, ça nous fait du bien. Et on est ravis de, encore une fois, de cette super édition.
Le prochain rendez-vous de Pro Events, ce sera le Nea City Trail en Sunset le samedi 22 mars. Sur les routes calédoniennes, il y avait du cyclisme, le retour du critérium de Païta, prix du comité régional de cyclisme. Nous avons fait le point avec Stéphane Coulon, le président du comité régional.
Quatre compétitions avaient lieu. Dans la première, réservée au U13, c'est Maël Chanson qui l'emporte devant Gabriel Pamar et Noah Merlin-Hartmann. Seconde compétition qui concernait les U17 garçons et filles, les Access 3 et Access 4. La victoire revient à Étienne Dacremont de VTT Passion devant Hugo Gardin de l'école calédonienne de vélo, tous deux U17. Et la troisième place revient à Julien Vérin, la première fille étant Louise Chavitz de l'école calédonienne de vélo qui termine à la 9e place. La troisième course du matin, la victoire revient à Laurent Colline de l'école calédonienne de vélo catégorie U15. La seconde place de la course à Eden Pamar du VCC Mondor, U15 également. La troisième place de la course revient à Patricia Temro de l'école calédonienne de vélo qui remporte sa catégorie Access 1. Et la dernière course de la matinée était réservée aux catégories Open. La victoire revient à Hugo Pommelet du VCC Mondor qui gagne en solitaire la course devant Kéril Moutry de l'école Caïdonine de vélo et Florian Barquette du VCC Mondor.
Voilà pour le point avec Stéphane Coulon, le président du comité régional de cyclisme. Le monde du cyclisme calédonien qui, par ailleurs, est touché également ce week-end par la disparition la nuit dernière de Thierry Barquette, père de Florian Barquette. À sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères condoléances. Il est 18h passé de 18 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous présentez, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous. Eh bien, pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, le ciel sera souvent très nuageux. Des averses concerneront les extrémités de la Grande Terre et les Loyautés, ainsi que le nord-ouest en soirée, puis la côte est en seconde partie de nuit. Le vent d'est-sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds, voire plus de 20 nœuds sur la pointe nord. En revanche, il faiblira avec 10 à 15 nœuds sur l'ouest. Les températures minimales ce soir s'échelonneront de 23 à 26 degrés en général et localement 21 degrés sur l'ouest. Demain matin, sur l'ouest et la pointe nord, les éclaircies domineront début de matinée, puis le ciel se chargera. Ailleurs, le ciel restera très nuageux et des averses circuleront, plus rares quand même aux Loyautés. Le vent d'est-sud-est se maintiendra de 15 à 20 nœuds et toujours plus de 20 nœuds sur la pointe nord. Il sera par contre faible sur l'ouest en début de matinée.
Merci beaucoup Maxime, c'est la fin de ce journal.